me préparer pour l'été. Arranger ma piscine comme il faut, mon barbecue, tout mettre ça propre sur le patio. Je me dépêchais. Je courais. Et puis là, les vacances arrivent, alors je cours pour me préparer pour les vacances. Là, je reviens des vacances. Et là, je me cours, mais plus Anne qui se court pour faire les brassées de linge. Après les vacances, tout ton linge est dans les valises, puis tout. Fait que Anne, elle s'est tapé une grosse brassée de linge. Et là, on se court pour remettre la maison un petit peu en ordre. Puis là, actuellement, on se court pour quoi, là? Vous courez pour quoi, là, vous autres, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? L'entrée de l'école. Là, les vacances sont finies pour les parents, là. Donc, c'est-à-dire que les vacances... je me suis trompé, hein? C'est l'inverse, hein? C'est l'inverse. OK. Mais on se court. On se court. Alors... pour respirer par le nez de temps en temps. Ouais. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. OK. En parlant de courir... Patty, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui marchent? Est-ce qu'il y en a qui font de la marche rapide ou qui vont promener leur chien le matin, là? Tu fais ça? Tu vas promener ton chien le matin? Tu vas te promener toi-même? Tu vas te promener en petit jogging, peut-être? Marche rapide. Est-ce qu'il y en a qui font du jogging, un petit peu? Jogging. De la course, même. Il y en a qui font de la course un peu le matin ou le soir dans la journée. On voit beaucoup de coureurs de plus en plus ou des coureuses. Et ça court. Donc, on court pas assez, alors on en ajoute, on court. Ce matin, je vais courir après mon souffle, mais on va parler ce matin de course. Vous êtes là? Vous êtes prêts à courir? En fait, je vais pousser un peu. Je vais faire appel ce matin à votre imagination. On a toute une imagination, hein? Il y en a qui l'ont plus débordante que d'autres, mais on en a toute une. Vous avez déjà reçu un faire-part. T'sais, imaginez-vous, là, un super de beau faire-part que tu as déjà reçu. Le plus beau que tu as reçu dans ta vie, OK? Des fois, c'est un faire-part, un grand événement, un mariage, quelque chose de... Puis des fois, dépendamment du faire-part, il y en a que c'est vraiment impressionnant. Il y en a que c'est gros, c'est bien fait. Tu vois que c'était fait avec amour, avec beaucoup d'attention. Et là, tu reçois... Imagine-toi là que tu as un faire-part entre les mains. Tu l'as, ton faire-part? OK. Il est super! OK? Et là, tu commences à lire. Ça parle de fête. C'est festif. Tu sais, on dirait que ça ressemble à un mariage, des noces, quelque chose. Mais là, tu te mets à lire de plus en plus. Puis là, non, c'est pas tout à fait ça. Finalement, tu viens de comprendre que c'est une invitation à une course. Hein? Une invitation à une course. Curieux. Je suis invité à une course. Puis tu continues à lire en bas du faire-part. Il y a une signature écrite avec du sang signé Jésus. Jésus, ce matin, t'invite à prendre part à une course. C'est ce qu'on va voir ensemble, si vous me le permettez, dans un beau texte, Hébreux, chapitre 12. Avant qu'on aille voir dans Hébreux, chapitre 12, prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ce matin que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus pour ces fleurs qui sont ici un matin, je ne sais pas qui... Comment c'est arrivé là? Des fleurs ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ton invitation à être ici dans cette belle assemblée par ce beau dimanche matin. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi et je te demande, Seigneur Jésus, ce matin, de me parler. Est-ce que tu voudrais, Seigneur Jésus, me parler ce matin? Parle à mon cœur, parle à mon âme. Mets ta parole sur moi, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs ce matin. Tu nous connais, tu sais exactement ce qu'on a besoin d'entendre ce matin. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, mets ton Esprit Saint sur moi afin que je puisse parler ce matin en ton nom, Seigneur Jésus. Donne-moi les mots exacts. Aide-moi dans les illustrations, dans les paroles. Choisis les bons mots, Seigneur Jésus. Sois avec moi, Seigneur Jésus, ce matin. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce matin, la lettre aux Hébreux, chapitre 12. La lettre aux Hébreux a été écrite par un auteur inconnu. On ne sait pas qui a écrit cette lettre-là. Quelques-uns pensent que c'est Paul ou des personnes autour de Paul, mais on ne le sait pas exactement. Ce que l'on sait, c'est que cette lettre-là s'adresse aux Hébreux. Les Hébreux, c'est qui? C'est les gens qui étaient, à l'époque avec Jésus, qui étaient dans la, parmi les Juifs, qui étaient dans la religion, si on veut, qui avaient suivi les ordonnances de la loi avec Moïse. Et dans ce groupe d'Hébreux-là, dans le fond, la lettre s'adresse comme à trois, il y a comme trois parties, trois genres de personnes qui écoutaient, à qui s'adressait cette lettre aux Hébreux. Trois catégories. La première des Hébreux, c'est des Hébreux qui étaient chrétiens, qui avaient compris le salut, qui avaient compris cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et, attention, la deuxième, c'était des Hébreux, mais non chrétiens. Mais, ce qui va être particulier, c'est que intellectuellement, ils comprenaient très bien de quoi il s'agissait. Ils comprenaient le premier groupe, qu'est-ce que le premier groupe était en train de vivre. Ils comprenaient que maintenant, sauvés par la grâce, par Jésus, ils comprenaient que Jésus se disait être Dieu. T'sais, intellectuellement, ils comprenaient le message de l'Évangile, le plan du salut. Ils le comprenaient. Ça, c'était la deuxième partie de l'auditoire. Ils étaient non-chrétiens, mais ils comprenaient intellectuellement, ils comprenaient très bien. Et la troisième partie des Hébreux, c'est ceux qui, eux autres, restaient attachés à la religion qui avait été établie de génération en génération. Et puis qu'eux autres, ils ne se préoccupaient pas de cette nouvelle tendance qui commençait à se dégager quand on parlait de Jésus, que Jésus était Dieu et tout ça. Eux autres, ils étaient comme indifférents, ils restaient collés aux anciennes traditions. Donc, ils étaient incrédules par rapport à l'Évangile. Trois groupes. Donc, puis aujourd'hui encore, dans nos églises, qu'est-ce que ça grogne ici? Dans nos églises, on a un peu les deux premiers groupes. Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient, mais dans nos églises, on a des chrétiens qui comprennent le salut et qui sont engagés. Et il y en a d'autres qui sont un peu en questionnement, en visite, de passage, ils étudient la question. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos églises. À l'époque, ça se comprend qu'il y avait un groupe d'Hébreux qui était engagé pour Christ, qui avait compris et qui était chrétien. L'autre groupe, pourquoi qu'il était un petit peu, il tardait. Il observait la scène, mais il s'engageait pas. Pourquoi? Parce qu'il voyait le premier groupe. Il voyait tous les problèmes que ce premier groupe-là avait depuis qu'ils avaient mis leur foi en Jésus. Leur vie se trouvait à... Il y avait beaucoup de persécutions, d'oppressions. Il y avait des problèmes, ce groupe-là. Ils étaient rejetés par leur famille, leurs proches. Ils étaient rejetés au niveau du temple. Donc, ils étaient dans les problèmes. Fait que là, eux autres, là, ben, ils se disaient, tu sais, ils étaient hésitants. Ce qu'on trouve encore un peu aujourd'hui dans nos églises. OK. Donc, je vous ramène avec notre invitation. Tu as ton invitation. Tu es invité à une course. Maintenant, comment est-ce que je réponds avec cette invitation-là? Comment je réponds? Bien, comme dans toute prédication baptiste, hein, on a une prédication avec des points. Hein? On va répondre à cette question-là. Et aujourd'hui, on va y répondre avec 4 points. OK? 4 points. De comment que je réponds avec cette invitation-là? Je t'invite à courir. Hébreux chapitre 12, verset 1. Les trois premiers versets, on va voir le premier point là-dedans. Qu'est-ce que je fais avec l'invitation? Nous donc aussi, ça c'est nous autres ça, il y a un donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui ça, cette si grande nuée de témoins? Eh bien, on a juste à... Hein? Les autres? Mais il y a des autres. Les autres, c'est bon, les autres. Mais si on regarde juste le chapitre précédent, ce matin, on court, mais là, on va, ce matin, là, je vais vous faire parcourir rapidement. OK? Le chapitre 11, on ne le lira pas, mais jetez un coup d'œil, parcourez-le des yeux. Le chapitre 11, vous allez voir que c'est rempli d'exemples d'hommes de foi qui ont couru toute leur vie. Abel, Enoch, Noé, Abraham, et tous ces gens, hommes et femmes de foi, qui ont marché, qui ont couru. Et c'est ça qui nous est ramené ici, là. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est comme si toi, tu es un coureur, que tu cours. Mais il y a des gens dans le stade qui te regardent courir. Tu n'es pas seul, tu es environné d'une grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est drôle, ce matin, je suis en train de déjeuner, puis au déjeuner, Andréanne, ma belle grande Andréanne, elle me partage son... Elle a fait un rêve cette nuit. Un petit rêve. Puis elle rêvait à quoi? Qu'elle courait. Elle courait dans son rêve. Mais tu sais, dans des rêves, des fois, tu cours, mais elle courait, mais elle avait de la misère. Elle courait, comme on dit, que ça avançait pas. Là, tu sais, c'est, on disait, tu cours, puis ça avance pas. Elle courait comme au ralenti. Puis elle me disait qu'elle avait un gros fardeau. C'est ça? Un sac à dos. Sac à dos. Mais ça il était lourd, puis ça la ralentissait dans sa course. Je trouve ça curieux qu'en déjeunant comme ça, je me suis dit, mais ouais, ça ressemble à mon premier verset que je veux parler d'un coureur qui court. Puis là, ça dit, rejetant tout fardeau, toutes des choses qui te ralentissent dans ta course. Qu'est-ce qui peut te ralentir dans ta course? Toutes sortes de choses qui sont des à côté par rapport à l'objectif de ta course. Tout ce qui peut déranger ta course. Pas nécessairement des péchés, des fardeaux. C'est des soucis du monde, toutes sortes de choses qui te ralentissent dans ta course. Et aussi, il y a le péché, le fameux péché, qui t'entortille si facilement, qui t'enveloppe si facilement. Mais ça, le péché, comment on peut le régler? Dans le fond, on ne peut pas s'en empêcher. Hein? Le péché, là, je ne sais pas, là, mais... on est pris avec. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, là, il est menteur. Le péché, t'es pris avec. Mais tu cours, mais il y a du péché. Fait que le péché, il faut que tu le règles au plus vite. Laisse-le pas t'entortiller. Il va te faire tomber dans ta course. Le péché, ce qu'on fait, on le confesse au fur et à mesure. On parle avec Jésus et on lui parle de ce péché-là. On lui remet... On lui dit, j'ai de la misère avec telle chose. Et on le règle au fur et à mesure qu'on avance. On ne laisse pas traîner. Parce que c'est si facile, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est drôle, mais plus j'ai lu ce passage-là, je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Mais c'est la première fois que le mot carrière qui est là, moi, c'est vous, qu'est-ce que je voyais? Je voyais clairière. C'est juste cette semaine que j'ai vu que c'était écrit carrière. C'est pas, je sais pas, y a-t-il qui ont le mot clairière ou y a-t-il un autre mot dans leur Bible? Une épreuve. Moi, je voyais, tu cours, puis là, c'était dans un beau champ, puis il y a des petits papillons, des fleurs, des bleuets, des framboises, puis là, tu cours là-dedans, puis ça sent bon, puis, tu sais, c'est le fun. Mais c'est pas ça pantoute. Quand je me suis mis à regarder le mot carrière, dans le grec, il y a le mot là-dedans, agonie. C'est comme si La course qui nous est proposée ici, là, c'est pas une course dans le beau champ avec les petits oiseaux et les petits papillons. Là. C'est une course à l'agonie. Une course qui est dure, qui est ardue, qui t'épuise jusqu'à l'agonie, jusqu'à la mort. C'est pas pantoute le même tableau que j'avais. Pas le même genre de course. Verset 2. Ayant les regards, quand tu cours, ayant les regards sur Jésus. Jésus qui suscite la foi et qui mène cette foi-là à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il n'a pas eu honte de mourir à cette croix qui était réservée pour des meurtriers. Il n'a pas eu honte de ça. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. On est en train de parler d'un coureur. On était invité à prendre une course, à courir. Et dans cette course-là, on était environné de... Il y a d'autres personnes qui ont couru avant nous autres. Dans le chapitre 11, on voit des exemples. Hommes et femmes de foi qui ont couru. La traîne a déjà été ouverte. Ils ont couru avec foi vers ce Dieu, l'éternel Dieu. Ils ont couru même avec... Des fois, ils voyaient le Messie à venir. Et Jésus lui-même a pris cette traîne-là aussi. Il l'a fait, cette course-là. Mais lui, il l'a fait sans aucun péché. Et qu'est-ce qui le motivait à faire cette course-là, jusqu'à l'agonie, jusqu'à la mort sur la croix? Qu'est-ce qui le motivait? C'est la joie. Quelle joie? La joie qu'il avait en pensant à toi. Il pensait à toi. Il y avait cette joie-là de voir que, hey, Roger, Roger s'en vient, il court vers moi et je l'attends les bras ouverts. Jésus avait la joie en pensant à toi qu'il allait venir dans ses bras, qu'il allait te sauver. Il y avait une immense joie à l'idée d'anticiper de te sauver. Et c'est ça qui l'a permis de garder, de faire la course jusqu'à la croix. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a fait ça pour que tu prennes courage, pour que tu te lasses pas l'âme découragée. Donc, le premier point qu'on a vu, que tu étais un coureur, tu avais reçu une invitation, tu es un coureur, et là, la question ce matin qu'on se pose, c'est comment je vais répondre à cette invitation-là? La première chose, premièrement, je dois considérer l'invitation. Je suis invité à courir. Qu'est-ce que je fais avec une invitation? Il y a des fois, tu es empressé, tu réponds au plus vite. Tu dis, oui, je vais être là, c'est sûr que je vais être là, j'embarque. OK? Il y en a d'autres qui vous prennent une invitation, puis ils la mettent de côté un petit peu, ils réfléchissent. S'ils sont polis, ils vont répondre. Non, désolé, j'ai d'empêchement, tatata. Il y en a d'autres, c'est ce qu'ils font? Ils la laissent là, sur le coin du bureau, ça s'empoussière tranquillement, puis ils n'en font plus de cas. Ils la laissent de côté. Donc, j'ai une invitation à courir. Qu'est-ce que je fais avec l'invitation? Premièrement, on va dire que je l'accepte. J'embarque dans l'invitation. J'embarque dans la course. Qu'est-ce que je fais maintenant? Les versets 4 à 11. On va les lire, puis on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. La version que je vais lire ici, ça va être dans la seconde 21, qui est écrite, traduite là, en 2007. J'ai pris cette version-là à cause d'un mot que vous avez dans certaines versions de Louis II. Vous allez voir le mot « châtiment »,« châtier ». Et j'ai préféré la traduction qui utilisait le mot « correction » et « corriger ». Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'idée de « correction » et « corriger », tu as l'idée un peu de pédagogie. C'est plus un accompagnement. Moi, je préfère être corrigé que être châtié. Je sais pas si ça fait un peu la même affaire dans vos têtes. Avoir un châtiment ou être châtié, c'est comme C'est comme plus dur que avoir une correction. Okay? Au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein, ça veut dire jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie finale. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Ici, on nous réfère à un proverbe, dans Proverbe chapitre 3. C'est une citation. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, à première vue, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un produit porteur de paix, la justice. On parle ici de correction. On parle d'un coureur qui court. Mais qu'est-ce qui arrive en courant? Tu cours vers un objectif, tu as un but, tu as une trajectoire devant toi. Et c'est comme si, tout d'un coup, tu te mets à changer de trajectoire. Ton fardeau pousse d'un bord, le péché qui t'enveloppe si facilement, tu dévies. Et là, il y a quelqu'un, ton père céleste, qui vient, puis là, il prend sa main, puis là, il fait une petite correction. Chut, par là. Puis là, oups, tu repars l'autre bord. Il te fait une petite... Oups, il te ramène... Dans... Mais tu sais, l'image, là, c'est l'image d'un papa, ton père. Il y a plusieurs papas ici. Il y a des mamans qui font la même chose aussi. Un petit enfant qui s'en va. Moi, j'avais Andréane et Léonie, deux filles, quand ils étaient tout petites, là. Okay. De temps en temps, Andréane, elle s'en allait par là. Je disais, non, on s'en va. Non, viens, je mettais ma main, juste ma main comme ça. Ça la ramenait. Léonie, elle aimait bien les bonbons. Fait que là, je oups, Léonie. Tu sais, c'était fait avec amour. C'était juste une légère réalignement. Regarde, c'est par là qu'on s'en va. À un moment donné, il y a quelqu'un dans l'église qui, je connaissais sa situation, il m'avait partagé des choses. Et il y avait un péché dans sa vie qui était récurrent. Et ça mettait sa propre vie spirituelle en danger. Ça mettait aussi sa femme en danger et ses enfants. Et puis là, ce péché-là était récurrent, ça revenait. À un moment donné, il vient me voir puis il me partage. Il dit, André, il dit, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un songe bien spécial. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Dieu m'a parlé dans un songe, soit en rêve ou en songe, puis il l'a nommé de son prénom, que je nommerai pas. Il a nommé son prénom, puis il a dit son prénom, arrête de pécher. Il n'a pas nommé le péché, mais la personne qui a entendu ce songe-là, elle savait très, très, très bien de quel péché Dieu voulait parler. Il a dit, arrête de pécher, sinon je vais te punir. Puis dans la nuit, c'est revenu, je ne sais pas si c'est deux fois ou trois fois, ça fait un petit bout de temps de ça, là. Mais la personne, elle me racontait ça, là, puis elle en tremblait, tu sais, c'était venu la chercher beaucoup. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? La personne, elle a arrêté ce péché-là. Et là, aux dernières nouvelles que j'ai, c'est... J'ai pas de nouvelles à l'encontre de ça, là. Ça devrait être arrêté. J'ai pas eu de confirmation récente, là, OK? Mais ça l'avait arrêté. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'il l'a châtié? Est-ce qu'il a donné une correction? Dans ce cas-là, non. Mais il a donné un avertissement sévère. Sévère. Arrête ça, parce que je vais te punir. Puis punition ici, là, ça aurait été une correction, un châtiment plus sévère, OK? Plus sérieux. Je sais pas, quand je parle comme ça, dans vos têtes, il vient-tu des images? Ça vous rappelle-tu des fois que dans ta propre vie, tu te rappelles-tu des choses que Dieu t'a corrigées ou t'a averti sérieusement? N'as-tu que ça leur a déjà arrivé? N'as-tu que je suis seul ou il y en a quelques-uns qui ont vécu ça? Quelque chose, vous êtes seul à savoir quoi? C'est quelque chose, un événement qui est arrivé, quelque chose, Dieu s'est démontré d'une façon. Puis là, tu savais très bien, très, très, très bien, que c'était Dieu qui te parlait. C'est comme s'il disait, tu sais, ou bien non, tu as reçu même un châtiment, une correction. Des fois, c'est à travers, Dieu peut s'y prendre de bien des façons. Il est très original, Dieu, dans la façon dont il intervient. Des fois, ça va être avec d'autres personnes. Des fois, il va faire apparaître publiquement ton péché. Il va comme le dévoiler pour que tu en aies une honte, pour que tu changes. Des fois, ça peut aller jusqu'à à travers l'Église, à travers la discipline dans l'Église. Dieu s'y prend de toutes sortes de façons. Mais savez-vous la bonne chose là-dedans? Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, parce que c'est pas drôle la correction, là. Tu sais, au début, c'est ça que le passage dit. On reçoit pas ça avec grande joie, là. C'est, tu sais, rappelle-toi quand tu étais petit puis que tu te faisais corriger là ou sermonner. C'est pas drôle là. Mais la bonne nouvelle là-dedans, deux bonnes nouvelles dans le fond. Deux bonnes nouvelles, c'est que de un, le fait que Dieu intervienne dans ta vie, ça va permettre de te ramener, de t'éloigner du péché. Ça va travailler sur ta sanctification. OK? C'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, savez-vous quoi? Ça te confirme quelque chose de bien important. Ça te confirme? Oui. Ça te confirme que tu es un fils de Dieu. Hey, c'est quelque chose. Dieu va pas châtier ou reprendre quelqu'un qui ne lui appartient pas. Si Dieu a pris la peine d'intervenir pour toi, directement pour toi, personnellement, c'est un coach particulier que tu as. Ton papa céleste dans le ciel a mis la main sur toi pour te corriger un petit peu. Ça prouve que tu es son enfant. C'est... Amen. Quand on le reçoit, le châtiment, ça fait mal. C'est humiliant, c'est gênant. C'est aux yeux des autres, puis tout ça, quand des fois tu reçois le regard. Mais ça te dit que ton papa céleste t'aime. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Puis par ce geste-là, il prouve que tu lui appartiens. Pardon? Tu pleures de joie. Oui. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, je continue à courir. Je cours, je cours, je cours. Et quand je cours, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, on a vu que faut que tu embarques dans la course, hein? Premier point, je décide d'embarquer dans la course. Deuxièmement, je ne suis pas tout seul dans cette course-là. J'ai mon Papa Céleste qui prend soin de moi, qui est mon coach personnel et qui va me corriger à l'occasion. OK? C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'à travers cette course-là, j'ai des responsabilités. J'ai que moi aussi, je suis responsable de certaines choses dans ma vie chrétienne. Et ça, on le voit au verset 12 à 17, à travers des verbes d'action qui sont là, comme le verbe « fortifier »,« suivre »,« rechercher »,« veiller ». Au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ici, on parle d'image, toujours l'image d'un coureur, mais on parle de choses physiques. On parle de mains, de genoux, de pieds, de sentiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des coureurs. Parce que moi, quand je cours comme ça. Les mains comme ça. Puis les mains, ça, le balancement des bras, tout ça, ça a une importance dans la course. Si tu cours comme ça, ben là, t'es à l'agonie pas mal. T'sais? Les mains ont une importance dans la course. Les genoux, extrêmement importants dans la course. Les genoux, vous savez, ceux qui prennent de l'âge un petit peu, là, les genoux, c'est une articulation qui est délicate. C'est fort, les genoux, mais un mouvement de côté brusque, c'est tout des petits... qu'est-ce qui fait que ça tient en place, là, ces beaux os-là avec le rotule et tout ça? Là? Parce que tu regardes ça, là, ça lâcherait tout seul, ces affaires-là. Qu'est-ce qui fait que ça tient en place? C'est des ligaments, des petits muscles. Et quand ça fait défaut, là, ben t'es bien mieux d'y prendre soin. T'es bien mieux de laisser le temps de frotter, tout ça, faire de la physio. Laisse le temps de guérir comme il faut avant de te remettre à courir. Très important. Et les pieds, très important, les pieds. Les voies droites. Ici, c'est au figuré, OK? Là, on va regarder plus dans le concret. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, quand on regarde ce verset-là à première vue, on dirait que c'est comme si ça l'enseigne un peu le salut par les œuvres, c'est presque. Donc, c'est comme si ça disait qu'il faut que tu aies la paix et que tu aies la sanctification pour être sauvé. Mais c'est le contraire, dans le fond. C'est juste, dans l'ordre des choses, c'est le contraire. Tu es sauvé. Quand tu es sauvé, quand tu remets ta... Tu sais, tu es sauvé comment tu es sauvé? Tu es sauvé par grâce et par le moyen de la foi. Et ça vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Mais quand tu es sauvé, tu as... Le résultat, c'est tu as la paix. Et la sanctification, mais tu l'as d'un coup sec parce que au niveau de ta position, tu deviens saint. Mais dans ton quotidien, tu te rends compte que tu es en train de marcher dans la sainteté. C'est une progression. Tu deviens saint au niveau de ta position, mais dans le quotidien, c'est un chemin. Donc, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous en autant que c'est possible pour toi. Toi, tu voudrais bien être en paix avec tout le monde, mais tu peux faire beaucoup de choses pour être en paix avec tout le monde. Mais si la personne avec laquelle tu n'es pas en paix, si elle décide de ne pas être en paix avec toi, toi, à un moment donné, tu ne peux plus aller plus loin. C'est le même genre de relation entre Dieu et les hommes. Dieu a tout fait pour être en paix avec tout le monde. Il voudrait que tous soient sauvés. Il a tout fait. Il a donné son Fils unique pour toi. Il te pardonne tous tes péchés. Il ne peut plus rien faire de plus. Mais toi, si tu ne veux pas, si tu le rejettes, Dieu ne peut pas rien faire de plus. C'est la même chose pour toi dans la recherche de la paix avec les personnes qui t'entourent. Tu es limité par l'autre personne. Si elle ne veut pas être en paix avec toi, elle veut être en guerre avec toi. Et la sanctification. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est comme une responsabilité que j'ai. J'ai à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un peu comme mon frère Jocelyn qui fait durant tout l'été. Il a cherché durant tout l'été à voir à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est ça que tu as fait, Jocelyn? Pas mal, hein? Il y a d'autres personnes qui font ça. En courant, ils courent, puis en courant, ils partagent leur foi. Ils ne sont pas gênés. Il y a Madeleine Paris. Je ne sais pas, Madeleine, c'est-tu une vieille dame? Madeleine, es-tu là, Madeleine? Oui, elle est là. Madeleine, Elle, là, elle court, cette femme-là. Vous l'avez jamais vue courir? Elle court, elle court, elle court. Puis en courant, là, elle parle du Seigneur. Elle va dans un bureau de voir son médecin. Dans la salle d'attente, là, quand elle part, là, tout le monde savent qu'elle est chrétienne. Elle va parler de Jésus. Naturellement, connais-tu Jésus? À part, elle a un don particulier que Dieu lui a donné de partager sa foi. Simplement. C'est tout naturel pour elle. Édifiant, Madame Madeleine. Mais on est tous invités selon nos dons. On n'a pas tous les mêmes dons, mais on a tous une bouche. On a tous un témoignage personnel. Quand je cours, juste par la course, par le genre de vie que je mène, les gens autour me voient. Et ma marche chrétienne est un témoignage. Des fois, c'est verbal, des fois, c'est juste par mon non-verbal, par mon attitude, je témoigne. Je suis le sel de la terre. Je témoigne, je vis ma vie chrétienne. Donc, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu n'as pas le contrôle, tu ne peux pas forcer une personne à accepter la grâce de Dieu, mais tu peux lui en parler, simplement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, c'est ma responsabilité par rapport à de l'amertume ou quelque chose. Si j'en ai moi-même dans ma vie, je dois mettre ça en règle. Et si, par rapport à une autre personne, un frère, une sœur dans l'Église, il y a quelque chose qui ne s'est pas clair, je dois aller vers cette personne-là et tout faire à mon possible pour régler la chose. En autant que ça dépend de moi. Je ne peux pas faire à la place de l'autre personne, mais ce qui dépend de moi, je dois tout faire pour le faire. Au verset 16, on est toujours dans l'idée de veiller. Veiller à ce qu'il n'y ait ni débauché. Ici, c'est débauché, ce n'est pas dans le sens sexuel, c'est plus dans l'idée spirituelle. Qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ici, l'idée qui est là, c'est que Ésaü était profane dans le sens que les choses de Dieu pour lui, ce n'était pas important. Le droit d'aînesse que Dieu avait établi comme l'héritier, il prenait le plus vieux de la famille, c'est lui qui était héritier, qui prenait en charge la famille au décès du père. Mais lui, ces choses-là, là, il ne prenait pas ça pour important. Pourtant, c'est Dieu qui avait établi ça, cet ordre-là. Mais lui, il était profane par rapport à ça, c'était pas important pour lui. Soyons sages dans les choses de Dieu. Donc, le troisième point, je suis un coureur, j'ai eu mon invitation, tu as eu ton invitation, tu es invité à embarquer dans la course. Tu es invité aussi à considérer que ton papa, tu n'es pas tout seul, ton papa vient t'aider dans la correction et tu as des responsabilités en tant que coureur. Tu as des responsabilités par rapport à tes frères ou sœurs qui sont peut-être plus faibles que toi, qui ont des fardeaux. Peut-être que tu peux les aider à ce niveau-là. Tu peux les aider au niveau de comme conseiller pour les encourager à continuer la course. Et oublie pas, dans ta course, tu n'es pas tout seul. Tu es environné d'une multitude de personnes qui te regardent aller. Et le dernier point qu'on va voir, c'est que, au niveau de cette invitation-là, à courir, tu dois être reconnaissant. Et ça, on le voit ici dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va utiliser comme deux tableaux, deux montagnes qui vont nous parler. La première montagne, c'est la montagne de Sinaï, donc versets 18 à 21. Il parle aux Hébreux là, qui sont dans son église, si on veut. On se rappelle au début, j'ai dit, tu as un groupe d'Hébreux qui sont des chrétiens, tu as un autre groupe d'Hébreux qui sont des non-chrétiens, mais qui regardent la game et qui sont au courant intellectuellement, qui connaissent bien les choses. Alors voici ce qu'il leur dit. « Hey, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. » Ici, on fait référence à un événement dans l'Ancien Testament. que tu peux retrouver dans Exode, chapitre 19 et 20. C'est le peuple hébreu qui était sorti de l'esclavage, qui était dans le désert. Je pense que ça faisait à peu près 3 mois qu'ils étaient dans le désert. Et là, Dieu les appelle à venir le rencontrer sur le mont Sinaï. Et là, Dieu avait parlé avec Moïse. Moïse avait établi une limitation physique au bas de la montagne pour que personne s'approche de la montagne. Et là, quand le jour était fixé auquel Dieu est descendu sur la montagne, dans la montagne, il y avait du feu dans la montagne, il y avait du tonnerre, des éclairs. Et quand Dieu parlait, la montagne tremblait. Et Dieu, les paroles de Dieu qui étaient là étaient terrifiantes au niveau du son que ça faisait. Et les Hébreux qui étaient en bas, ils se bouchaient les oreilles, ils disaient « Non, 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 on ne veut plus entendre ces sons-là, c'est trop fort, c'est agressant. C'est... On ne veut plus rien entendre. Toi, Moïse, vas-y parler avec Dieu. » Reviens-nous, on va tout faire ce que Dieu t'a dit de faire, mais on ne veut plus rien entendre. Tu vois, c'est dur. Et aussi, il faut s'imaginer que la scène était dure. C'était assez dur. Que regardez ce que le prochain verset. Au verset 20, « Car il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Si un homme ou un animal dépassait la limite qui avait été établie et s'approchait dans la montagne, cet homme-là, ou cette femme-là, ou cet animal-là devait être lapidé. C'est gros. Et ce spectacle, verset 21, était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc ça, c'est la première image. Le mont Sinaï, c'est comme Dieu, si dans cette première alliance, parce que à travers cet événement-là, c'est là que Dieu, que Moïse est monté sur la montagne, que Dieu a remis les tables de la loi à Moïse. Dans cette première alliance, Dieu s'est comme manifesté comme un Dieu. Hey, « Moi, là, je suis 3 fois saint. Saint, saint, saint est mon nom. » Puis toi, l'homme, là, t'es pécheur. Tu comprends-tu que t'es pécheur? Tu comprends-tu que t'es séparé de moi? C'est comme si Dieu mettait l'emphase sur la séparation. Comprends-tu ta situation? T'es pécheur, t'es séparé. Regarde, la montagne, il y a une séparation. Tu peux pas venir comme tu veux là, avec moi. Là. Prends conscience que t'as péché et que t'es séparé de moi. Mais à travers tout ça, Dieu a permis que Moïse soit en relation avec lui. Et Dieu, dans sa première image, a permis que des hommes, parce qu'on l'a vu au chapitre 11, il y a plein d'hommes qui ont marché dans la foi, même à travers ce Dieu qui était comme austère ou terrible, mais ils ont placé leur foi et puis ils ont réussi à faire la course qui était sous cette première alliance-là. Maintenant, l'auteur des Hébreux dit ça au peuple qui est devant lui. Il dit, « Vous ne vous êtes pas approché de la montagne du mont Sinaï, mais au verset 22, mais plutôt, vous vous êtes approché de la montagne de Sion. » C'est une autre montagne, une autre image. « De la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc, plein d'anges, des myriades d'anges qui chantent, comme on chantait un peu ce matin avec François, qui chantent. « Vous vous êtes approché, au verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » C'est toutes les personnes qui ont vécu, qu'on a vu au chapitre 11, des hommes et des femmes de foi, qui ont placé leur foi en l'Éternel et qui ont réussi à faire cette course-là par la foi. Verset 11, vous lirez, « C'est par la foi que Jacob, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Noé. » Ils ont tous pris le chemin, la course par la foi. Au verset 23, « Mais vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Et vous êtes approchés aussi des esprits des justes parvenus à la perfection. » Ça, c'est les premiers chrétiens. Esprits des justes parvenus à la perfection. Et au verset 24, vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, que du sang d'Abel. Autrement dit, il met en contraste les deux montagne, la montagne de Sinaï, où Dieu s'est révélé comme un Dieu autoritaire. Il voulait mettre l'emphase sur la sainteté de Dieu et l'homme pécheur. Et la deuxième alliance qui est faite avec son fils Jésus, Dieu révèle dans cette une autre partie de sa personne qui est la grâce. Dieu a tout fait. Dieu t'invite, l'invitation qu'on a eue, Dieu t'invite à courir vers lui. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la course? Il y a le Seigneur Jésus. Je cours et je garde les yeux fixés sur Jésus. Et qu'est-ce qui m'attend à la fin de la course? On va le voir dans les prochains versets. Et là, il leur dit ceci au verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, en parlant de la première montagne de Sinaï, n'ont pas échappé. Le groupe d'Hébreux qui était en bas de la montagne, là, ils n'ont pas échappé. Il y était une gang là, qui ont sorti d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge avec Moïse. Toute cette gang-là qui était en bas de la montagne de Sinaï, qui se disait, non, on ne veut plus rien entendre, on ne veut même plus entendre une seule phrase. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce que Dieu a fait avec eux autres? Il les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, ces personnes-là? Ils sont toutes morts, un après l'autre. Toute la gang. Ils sont toutes morts durant le périple, 40 années. Puis qui s'est rendu à la terre promise? C'est tous leurs enfants, la nouvelle génération. Mais tous les premiers sont tous morts. Si ceux eux autres n'ont pas échappé, s'ils n'ont pas échappé, au verset 25, « Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Si avec la première alliance, ceux qui n'ont pas écouté n'ont pas échappé, bien ceux avec la deuxième alliance, avec l'alliance de la grâce par Jésus-Christ, ceux qui s'entêtent à refuser cette grâce-là, bien ils vont échapper encore bien moins. « Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Lui, dont la voix ébranla alors la terre, parce qu'avec la montagne de Sinaï, ça shakait, il a ébranlé la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Donc, la prochaine fois, Dieu va ébranler non seulement la terre, mais aussi tous les astres des cieux, tout le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Au verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, qu'est-ce qui se passe avec ma course? Je cours, je cours, je cours. Je cours et j'essaie de ne pas avoir un fardeau trop lourd sur mes épaules, parce que je veux courir longtemps et je veux faire la course. Et les choses du monde qui m'achalent, qui me surchargent, j'essaie de faire du délestage. J'essaie de diminuer mon fardeau. Et j'essaie le péché qui m'entoure aussi facilement, j'essaie de m'en débarrasser et de le confesser au fur et à mesure que je m'en rends compte. Et je cours les yeux toujours fixés sur Jésus. Constamment. Et qu'est-ce que je vois à la fin? Parce que ma course, on l'a vu tout à l'heure, c'est une course jusqu'à l'agonie. Qu'est-ce que je vois au bout? Je vois ce qu'on vient de voir ici. Je vois, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Ce que je vois au loin, c'est un royaume inébranlable. Les choses dans lesquelles on vit actuellement, c'est toutes des choses qui vont disparaître. Ce que je vois au loin, c'est un royaume inébranlable. Un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Il y a le roi des rois, le Seigneur Jésus, roi des rois, est dans ce royaume. Et moi, qui je suis, moi, qui cours, si un roi qui m'atteint dans un royaume, moi, je suis quoi? Un prince et une princesse. Et je suis attendu dans ce royaume-là. Je suis un fils et une fille de Dieu. Et je suis attendu dans le royaume qui était préparé pour moi. Conséquemment à ça, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Vous rappelez-vous, dans Romains, chapitre 12, verset 1, l'exhortation que Paul dit, Paul il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce qui va être de votre part, là, un culte raisonnable, un culte bien correct, bien ordinaire. Tu n'as rien fait de spécial si tu as offert ta vie à Dieu. Tu n'as rien fait de spécial. C'est juste que Dieu s'attend à ça. C'est normal. C'est la course normale. Tu es invité à prendre part à une course. Et cette course-là, ici à l'Église, là, on n'enseigne pas l'Évangile bonbon. Tu sais? On enseigne le vrai Évangile. La course là, qui est présentée devant toi là, n'est pas facile. C'est une course. Et c'est une course jusqu'à la mort. Toute ta vie, tu cours vers Jésus-Christ. La plus belle vie, ben, on va terminer un petit peu comme ceci. Il y a un passage dans Luc, chapitre 9, verset 24, qui dit ceci. « Car celui qui voudra sauver sa vie, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il va la perdre. » Ça, c'est celui, quand on dit que celui qui voudra sauver sa vie, là, c'est celui qui voudra jouir de sa vie, des choses, de la belle vie là, sur terre, tu sais, des choses de la terre, les choses, les plaisirs de la terre, les satisfactions, écoute, il ne faut pas se le cacher, là. Il y a des belles choses, il y a des bonnes choses. Il y a plein de choses sur la terre qui sont agréables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas péchés, ils sont permises. Mais celui qui voudra s'accrocher là-dessus, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Dans le sens que la course qu'on mène actuellement, là, aux yeux des autres, là, on a de l'air d'une gang de fous. On perd notre vie en courant vers Jésus-Christ. On perd notre vie à leurs yeux. L'Évangile, la prédication de l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est fou ce qu'on est en train de faire. À leurs yeux, on est en train de gaspiller nos vies. On est en train de scraper nos vies à leurs yeux. Mais la vraie vie, la vie abondante, c'est quand tu décides d'embarquer dans la course, quand tu décides d'enlever du fardeau un peu, quand tu décides de lutter contre le péché, quand tu décides de courir jusqu'à la mort vers Jésus que tu le vois Jésus, tu le vois dans son royaume, assis à la droite du Père. Il t'attend et tu vas courir jusqu'à ton dernier souffle de vie et là tu vas tomber entre les mains de Jésus. Il va dire, viens vers moi, bon et fidèle serviteur. Entre dans ma joie. Parce que Jésus, il a cette joie, il t'attend avec joie, avec impatience. Il a hâte d'être avec toi pour l'éternité. Cours cette course-là. Et ce matin, courbons-nous. Ce matin, je ne sais pas où tu en es rendu dans ta course. Je ne sais pas si ton fardeau, peut-être qu'il est trop lourd. Peut-être que tes genoux faiblissent. Peut-être que tu as même arrêté de courir. Peut-être que tu t'es ralenti. Arrêté, peut-être. Peut-être que tu t'es assis dans ta course. Peut-être que tu es même couché dans ta course. Seigneur Jésus, tu me vois. Tu vois exactement où j'en suis ce matin. Tu vois mon âme, tu vois mon cœur. Tu vois si je suis encouragé, tu vois si je suis découragé. Tu vois où j'en suis dans ma course. Tu me connais et tu désires être avec moi. Tu désires être un papa pour moi. Tu désires me corriger avec amour. Et dans ta correction, tu y vas toujours avec la juste dose, la parfaite dose qui est bonne pour moi. Et tu m'invites à parler de toi dans mon entourage. Tu m'invites à ne pas être gêné de toi. Tu m'invites aussi à persévérer. Je veux courir vers toi, Seigneur Jésus. Je veux courir vers toi dans la carrière qui m'est ouverte devant moi, dans la vie que tu me donnes. Je veux sacrifier ma vie pour toi. Je veux consacrer ma vie pour toi parce que je t'aime, Seigneur Jésus. Et la vie, la vraie vie, Seigneur Jésus, je reconnais qu'elle est seulement en toi parce qu'elle est d'une valeur éternelle. Et toi, tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus, le Christ, le Messie, celui que le Père a envoyé pour établir la paix avec moi. Merci, Seigneur Jésus, de vivre dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen.